Chers amis auditeurs, bonsoir. Benoît Duchâtelet, je suis encore un petit peu orphelin parce que mon patron d'émission, Benoît Aguelon, est sur le terrain dans des aventures municipales, pré-municipales. Je vous laisse imaginer les bonnes ambiances. Donc, j'ai le plaisir de prendre sa place, tel un Is No Good, et me voilà en mesure d'accueillir pour vous ce soir, dans le Libre Journal des Artisans, un électron... forcément libre, peut-être avec des références cinématographiques de haute volée. Le Père Noël est une ordure, je dirais qu'il ne rentre dans aucune case, un peu comme ZZ et Pouzy X. Donc j'ai du mal avec ce troublion à savoir où le mettre. Si on a envie de résumer, il dirait volontiers journaliste aventurier. Mais comme il a créé, vécu, fait des choses absolument improbables, ça ne rentre dans aucune case. Et nous allons pour autant, à tel un calendrier de l'Avent, ouvrir toutes les cases dans lesquelles on peut le trouver. J'ai le plaisir de vous présenter Igor Bietri, qui n'est pas à mes côtés, mais qui a eu la gentillesse de faire valoir sa Charente inférieure et de nous recevoir à domicile. Bonsoir Igor.
Bonsoir à tous.
Donc Igor, qui a quitté le salon Rétromobile où il a, qui est à Paris et qui présente les véhicules anciens, entre autres, est retrouvé après une belle route rassurante qui le ramenait chez lui. Nous lui sommes tombés sur le poil en disant « Attention, il est important de pouvoir faire valoir ton témoignage ». Mais lui, d'habitude, tend le micro aux autres. C'est un artisan de la parole. Et il va, tu le veux bien, parce que d'habitude, nous vous voyons nos invités, mais malheureusement, ce lascar-là, on se connaît depuis quelque temps et ça sera difficile. Donc, j'ai à cœur de lui rendre la parole, alors que d'habitude, c'est lui qui l'offre aux autres, pour te demander, cher Igor, si tu veux bien revenir sur ton histoire, parce qu'une vie se comprend plus facilement lorsqu'on la regarde dans son entièreté. Donc, je ne parlerai pas de la fin de ta vie, mais bien du début de ta vie. Et si tu veux bien...
J'espère qu'aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie après être passé sur Radio Courtoisie. Donc, ça n'est que le début pour moi.
Ah, mais grand Dieu, c'est vrai que c'est la première fois.
Eh oui.
Donc, voilà. Oh, je suis tellement ému, alors, de te permettre une nouvelle expérience, toi qui en attends. Donc, chers amis auditeurs, Igor Bietri, qui es-tu?
Alors, je suis un journaliste de base, au départ, hein, ne l'oublions pas. Et effectivement, j'ai la grande joie et la grande chance d'animer un certain nombre de manifestations automobiles à travers la France durant toute l'année, une vingtaine à peu près. Et c'est vrai que je continue depuis maintenant un certain temps, voire un temps certain, à faire le journaliste, puisque j'ai eu la chance de commencer ce beau métier à l'âge de 17 ans. Et de me passionner pour le monde de l'automobile ancienne, ce qui m'a permis de commencer une carrière qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas achevée.
Alors, oui, jusqu'à preuve du contraire. Au moment, il y a un petit enchaînement de phrases qui me perturbe. 17 ans automobile. Alors, pour certains, la majorité était à 21 ans, mais le permis de conduire ne me semblait pas être à 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, on s'en fout. Et en fait, j'ai une maman qui a été absolument merveilleuse, puisque le jour où je lui ai dit, voilà, je suis en stage sur rue de Lille, 7 rue de Lille. Les passionnés d'automobile se souviendront de cette magnifique adresse qui était en fait le siège social d'échappement Auto Hebdo et Auto Passion pour lequel j'étais stagiaire. Et le jeune stagiaire de 17 ans, donc, a eu la chance qu'un des rédacteurs en chef absent et laisser une accréditation sur son bureau pour les 48 heures de Troyes, c'était la première édition. Et donc j'ai vu cette accréditation, je me suis précipité dans les bureaux pour aller voir le directeur de la rédaction, M. Pagani, qui m'a dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ?» Et puis voilà, il y a cette accréditation, les autres sont où ? Je crois qu'ils sont partis en week-end, et t'as qu'à y aller. Et le « ben t'as qu'à y aller » était le début de ma carrière de journaliste. Et donc, maman, au secours, est-ce que tu peux m'emmener à Troyes? On habitait à Évry. Et maman, merveilleuse maman, bien sûr, a emmené son fils jusqu'à Troyes pour qu'il fasse son premier reportage. Et c'est donc pour ça que je peux me vanter d'être journaliste automobile depuis l'âge de 17 ans.
Ah, mais effectivement, et sans avoir eu à jouer les Arsène Lupin, la question n'était pas de dérober l'accréditation, mais bien de pousser les portes et de poser la question ouvertement.
Ah oui, oui, tout à fait. Il n'était pas question qu'évidemment je fasse ça...
autrement.
Bah ouais, ça, l'histoire n'aurait pas été aussi belle parce qu'en fait, il y avait une espèce de allez, vas-y, fonce.
Exactement. Et ça, c'est magnifique parce que c'est le sésame. du lancement de carrière d'un gamin motivé.
Voilà, et c'est toujours une histoire de transmission. Et c'est vrai que le fait qu'on passe le bâton comme ça, le témoin, même dans, on n'a pas besoin d'être sur une piste d'athlétisme, ça peut aussi être vraiment vecteur de jolies choses. Donc c'est pour ça que je tenais à vous le dire, c'est vrai que c'est sympa.
Mais c'est très important parce que le principe aussi du Libre Journal des Artisans, c'est de mettre en lumière des parcours, des histoires. On a eu l'occasion, il y a peu de temps, d'avoir quelqu'un dans le monde de l'Armagnac. Donc, moi, déjà, passer d'un univers à l'autre, c'est délicat. Les deux ne vont pas ensemble. Mais alors, quel plaisir d'entendre le fait que pour certains, où tout le monde leur disait de ne pas faire, c'était pas possible, ils ont poussé les portes, ils ont osé, ils ont réussi. Et c'est ce genre d'aventure et de courage qui c'est toujours passionnant parce que voilà, on vit à la travers nos invités et on se rend compte des opportunités qui existent et qu'il faut aller chercher. Et être capable à 17 ans de se dire c'est ce que j'aime, je monte, je pose la question, il faut avoir ce courage-là et il faut avoir en face effectivement être celui qui a le panache de dire mais bien sûr mon gars en avant.
Oui, c'est tout à fait vrai. Bon, alors c'est vrai qu'il prenait pas grand risque. Parce que à la limite, personne n'avait prévu d'y aller. Donc, moi, je suis revenu avec un cahier de notes. Hein. J'avais juste pour quelques signes. J'avais pris évidemment beaucoup de précautions, mais j'avais fait une jolie photo et j'avais eu la chance d'avoir un quart de page. J'étais très fier de cette photo. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'elle est complètement imprimée. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Le fait de voir sa première photo et son premier texte imprimé dans un magazine. Pour un journaliste, en tout cas tous ceux qui m'entendent savent exactement de quoi je parle, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Et de figer, du coup, dans la mémoire.
Absolument. Ce qui est rigolo, c'est cette première pige qui m'a été rémunérée, hein, eh bien, m'a permis d'acheter ma première machine à écrire. Donc, il y avait vraiment carrément un investissement sur l'avenir. Avec j'avais acheté une machine à écrire qui a très vite été obsolète, malheureusement, parce que les ordinateurs se sont précipités sur mon bureau. Mais
pour est-ce qu'elle existe derrière toi, cette machine? Est-ce qu'elle a été conservée comme symbole?
Non, à l'époque, c'était Canon qui sortait des machines avec du papier thermique. Alors, c'était une vraie vacherie parce qu'en fait, tu écrivais ton papier et si tu avais le malheur de le laisser pendant 1 ou 2 mois, en archive, en fait, le papier thermique effaçait tout ce que tu avais écrit. Donc, ça a été un vrai, vrai problème. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se sont après passés de cette machine. Mais c'était les premières machines électroniques et j'étais très fier d'avoir pu m'offrir cette machine.
Alors, je pense qu'après, tu auras d'autres anecdotes sur les fausses bonnes idées aussi dans le monde de l'automobile avec des initiatives qui ont été prises et qui n'ont pas forcément trouvé un bon avenir, mais qui ont fait grandir l'industrie et qui, effectivement, chaque nouvelle innovation amène la suivante. Et c'est l'ensemble qui est passionnant. 3 jours sur place quand même, donc à 17 ans.
Oui.
Donc là aussi, c'est pas je prends un carnet sous le bras et je vais faire ma pige et prendre 3 notes. C'est 3 jours sur place à tenir et à faire son trou.
Non, je ne sais pas si à l'époque il y avait 3 jours en fait, parce que depuis très longtemps, les 48 heures c'était 3 jours, mais il me semble que moi j'avais juste été au concours d'élégance le dimanche, qui était vraiment le point fort
le point
de la matinée à l'époque. Je crois même que c'était la première édition hein, en fait, des 48 heures de Troyes. Donc, je crois qu'il n'y avait qu'une journée, ou alors une journée de rassemblement, mais le point d'orgue, et c'est là où j'étais, c'était le concours d'élégance de l'après-midi. Alors, ne me demande pas exactement où ça se passait, je me souviens d'un boulevard, j'ai plus trop de souvenirs. Et,
alors, on parlait des Canadiens tout à l'heure, des Québécois, donc tu tombes en amour de cet univers dès le début?
Oui, alors. Moi, les voitures, je les aimais déjà, évidemment, hein, puisque l'idée est que si j'avais demandé à faire un stage à l'autopassion, c'est parce que j'étais déjà piqué par le virus de l'automobile. Mais le virus de l'automobile, c'est en fait déjà une seconde histoire, puisque moi, ma première histoire, c'est l'aviation ancienne. J'ai eu la chance, la grande chance, là encore, d'avoir des parents qui, n'aimant pas la voiture, c'est ça qui est drôle, n'hésitez pas à se déplacer pour ramener leur fils et pour pouvoir lui permettre d'avoir toutes les activités auxquelles il aspirait. Et là, en l'occurrence, il m'amenait sur le terrain de La Ferté-Alais, Cerny-La Ferté-Alais, où le plateau de Cerny accueillait, enfin, il accueille toujours d'ailleurs la collection de Jean Salis, les fameux vieux avions du meeting de la Ferté qui sont connus en région parisienne depuis très longtemps par beaucoup de gens.
Alors pour faire un tout petit parallèle avec notre sujet quand même, tu parles de l'importance des parents qui à ce moment-là s'impliquent et t'accompagnent et passent du temps avec toi alors qu'ils n'aiment pas conduire. Tes parents étaient eux-mêmes artisans et mettaient la main dans la fabrication chacun à leur registre. Quels étaient leurs univers?
Absolument, mon père était prothésiste dentaire et ma mère était opticienne. Et donc ma mère avait un commerce, mon père était juste dans le sous-sol et montait ses couronnes et ses bridges sous le magasin. Et donc c'est vrai qu'ils essayaient toujours de se débrouiller pour me trouver un temps qui leur permettait de faire 40 km, parce qu'il y avait 20 km pour y aller, 20 km pour revenir, hein, pour eux quand même. Et nous donnait, enfin me donnait la possibilité de pouvoir aller vivre des choses assez incroyables. Et le truc, c'est que j'ai commencé à aller sur ce magnifique, enfin dans ce magnifique endroit, j'avais quoi, 12-13 ans.
12-13 ans. Et puis
Alors,
ça, c'est pas une transmission, c'est vraiment la passion du fiston.
oui, absolument,
Et
absolument, parce que mon père a même plutôt horreur de l'automobile, jamais aimé ça. Ma mère conduisait uniquement par utilité, donc j'avais personne autour de moi
Féru.
qui était féru par l'automobile, mais et l'automobile et l'aviation a fortiori. Et pour le coup, c'est vraiment j'ai auto-généré ces passions.
C'est pour ça que j'insiste, parce que justement, tout n'est pas toujours une histoire de transmission. Et voilà, on peut tomber dans le bain et découvrir et s'émerveiller soi-même. Et donc, faut pas hésiter, même quand on a un univers où il y a une appétence à l'artisanat et à la création au quotidien et passer du temps avec ses clients, pour ses clients. Pour autant, voilà, on peut avoir le spectre qui s'ouvre et avoir un univers qui personnel. Pour autant, à 17 ans, c'est ce qu'on disait, premier portage dans un univers automobile, sans pour autant avoir le plaisir de la conduite soi-même. Comme beaucoup d'hommes, le service militaire sert souvent à découvrir la vie en communauté et de passer un certain nombre de permis. Il y a une petite anecdote cocasse sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, cher Igor.
Oui, en préparant l'émission, je t'ai fait un aveu. En fait, comme un garçon sur 10, je suis daltonien. Et le problème, c'est que je suis allé faire mon service. Donc là, pour le coup, j'avais obtenu mon permis. Je l'avais obtenu évidemment très vite. Je crois que je suis de janvier. Je crois que je l'ai eu en juin. Hein, donc, je n'ai pas perdu de temps. Et mes parents ont tout de suite, là aussi, œuvré en étant avec une certaine inquiétude, en fait. Et m'ont inscrit une école de pilotage pour que je puisse apprendre à conduire. Alors, avoir le permis, c'est une chose, mais apprendre à conduire, c'est malgré tout quelque chose d'assez différent. Et donc, pour le coup, m'avait envoyé dans cette école de pilotage. Et donc, les choses étaient ensuite différentes. Et curieusement, mon service militaire a été un peu spécial, parce que comme j'étais déjà journaliste, je n'avais qu'une idée, c'était. Déjà au départ de pas trop faire l'armée parce que j'avais trop de choses à faire, j'étais très occupé, moi, monsieur. Et en fait, j'ai été reçu par un colonel charmant qui m'a accueilli au SIRPA, donc le service d'information des armées.
Normalement,
Et
plutôt une terre de prédilection pour des journalistes, oui.
voilà, c'était l'idée, c'était au moins autant que je fasse quelque chose qui était dans mon rayon d'action. Et il se trouve que malheureusement pour moi, il avait entre guillemets embauché un appelé 2 mois avant, et du coup il y avait encore 10 mois à attendre pour pouvoir prendre sa place, donc ce qui était pour moi difficile. Et je crois, je me rappelle malheureusement plus de son nom, mais j'aurais adoré qu'il me dise vraiment. Je crois qu'il m'a pistonné, en fait, puisqu'il m'a envoyé faire mon régiment au 121e régiment du train à Montlhéry, de l'automobile s'il en est.
Quel clin d'œil.
Et voilà, et c'était assez drôle. Et ce qui était encore plus drôle, c'est que pendant que je faisais mes classes et que j'étais à crapahuter dans les trous avec un casque lourd et un MAS 56, j'étais sur le bord de la piste du circuit routier du circuit de Montlhéry. Et il m'est arrivé de voir très régulièrement mes collègues d'échappement et d'auto-hebdo, moi, planqué avec mon fusil, avec le casque lourd, etc., dans les trous, pour surtout qu'ils ne me reconnaissent pas, qu'ils ne se moquent pas de moi, alors qu'eux étaient en train d'essayer les voitures sur le circuit routier. Circuit routier, d'ailleurs, qui descend sur la côte Lapice jusqu'au régiment du 121e régiment aujourd'hui.
Donc sur le papier, c'est ce que certains appelaient à l'époque le RPCM, donc le régiment près de chez maman. Et là, l'avantage, c'est que quitte à avoir raté le SIRPA, d'avoir trouvé une solution qui était à portée de main, donc merci mon colonel, l'efficacité du choix géographique et cette blague merveilleuse de pouvoir être aux abords des pistes et de mélanger encore les deux univers.
Alors, en fait, je me rends compte on a oublié les détails parce que je vous ai parlé du fait d'être daltonien.
Et j'allais revenir sur le permis, oui.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais le permis, j'avais fait une école de pilotage, j'avais le permis moto aussi, le permis gros cube moto. Et
À 17 ans.
non, bien après.
Ah, voilà, là, aux abords du service militaire.
D'abord, du service militaire, donc j'avais quasiment tous les permis. Et en fait, pendant les 3 jours, ils ont découvert ce que je savais déjà. Ma mère était opticienne, ça faisait très longtemps que je le savais. Et bien que j'étais daltonien. Et les militaires à l'époque, avaient un système extrêmement efficace pour les daltoniens qui plonge dans une pièce qui est totalement noire et vous envoie un signal lumineux de couleur. Et ça, il n'y a aucun daltonien qui peut y échapper. Si vous êtes daltonien, vous êtes incapable de savoir si elle est verte, rouge, orange, jaune ou bleue. Ça vous perd. Et donc, du coup, je me suis retrouvé C4. Je ne pouvais pas avoir de permis dans l'armée. Et donc, je n'ai pas pu conduire la moindre Jeep, le moindre C15, la moindre Kajiva moto. Voilà, j'étais.
Alors pour rappeler cette particularité, le 121e régiment du train offrait cette possibilité donc au pioupiou, qui était évidemment de pouvoir passer et de s'entraîner sur ce que pouvait offrir l'armée à ce moment-là en moto, en voiture, en camion.
Et j'en profite pour dire du coup que le 121e régiment du train était globalement, les régiments du train, les tringlos, comme on dit, avaient cette particularité d'offrir à des jeunes gens qui étaient un peu, on va dire, désœuvrés, de pouvoir repartir avec des permis qui leur permettaient d'avoir une voie royale derrière pour pouvoir rentrer dans la vie civile, pour le coup, et surtout la vie professionnelle. Et ça. Évidemment, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Alors, pour moi, ça ne me concernait pas, mais en l'occurrence, on m'a très vite confié quelques jeunes appelés et pour un peu l'incorporation, on va dire. Et beaucoup d'entre eux ont été, entre guillemets, sauvés, non seulement parce que c'était soit l'armée, soit la prison, parce qu'ils avaient fait quelques larcins, délits, etc. Donc déjà, ça leur évitait la casse-prison, et en plus, ils repartaient de l'armée. On leur avait un peu expliqué la vie, évidemment, quelques bribes d'éducation, si l'on peut dire, et ils repartaient avec des permis, ce qui était vraiment quelque chose d'assez formidable.
Ah bah c'était le principe même de cette vie transversale permise par le service militaire. Et effectivement, le potentiel qui était offert à ces jeunes en sortant d'avoir eu un cadre, une formation et un espoir.
Formidable.
Bon, évidemment, il y a ceux qui parlent des tours de cours pour cramer le gasoil et ceux qui ont eu l'intelligence d'en tirer une expérience évidemment un peu plus enrichissante. Donc, sorti de ce moment où on se cache de ses amis qui sont sur le bord des pistes, il est temps. D'affronter maintenant une vie professionnelle et d'être soi-même sur le bord des pistes. Et c'est la vie de l'auto qui lance l'aventure.
Effectivement, j'étais donc déjà avant de partir à l'armée, hein, parce que donc
Précoce, le
17 ans,
Igor.
17 ans après des études un peu quand même, un BTS, etc. Et puis l'histoire, c'est qu'il a fallu à un moment se poser la question, c'est-à-dire que moi à l'armée, j'étais chargé de la promotion sociale et la reconversion, c'est-à-dire que je faisais la NPE de l'armée, je cherchais du boulot pour les appeler, même pour les engagés donc, qui étaient en fin de contrat. Et je sais pas, 2, 3 mois de la fin de mon service militaire, pour le coup, moi, j'avais rien, j'avais pas d'embauche dans la presse. C'est d'ailleurs ce qui m'avait inquiété, et à juste titre, pour le coup, quand il avait fallu faire l'armée. Et coup de chance, mon épouse, qui était déjà entrée, elle, à la vie de l'auto, on lui a posé la question de dire, mais après son service, Igor, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il ne sait pas trop. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que là, on va lancer un magazine qui s'appelle Rétroviseur. On a besoin de renforcer la ville d'Auto, l'équipe de la ville d'Auto. Donc, il va vite cumuler ses permes pour pouvoir sortir le plus vite possible et ensuite, on l'embauche. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ça a été assez étonnant parce que le vendredi soir, en toute fin de service, puisqu'à l'époque, c'était encore 12 mois, j'ai rendu mon sac de paquetage. Le lendemain, je partais en reportage parce que j'étais pile poil sur le créneau. Donc, je suis parti dans les Alpes pour couvrir le neige et glace et j'intégrais mon bureau le lundi matin pour une quinzaine d'années de services, de bons et loyaux services du côté de LVA à Fontainebleau.
Alors, tu présentes la suite comme étant tout à fait évidente, 15 années tranquille, mais celui qui a pris la décision peu de temps avant, sous couvert de oh, j'ai eu de la chance, mais tu as parlé de ta femme aussi à ce moment-là.
Oui, alors ce qui
Donc,
est assez
parce
rigolo,
que
c'est que
tout le monde, je précise, tout le monde n'est pas déjà marié, avec déjà tous les permis, avec déjà un service militaire qu'on réduit au
oui, c'est
maximum parce que le marché du travail l'attend. C'est pas de la chance.
Alors,
On provoque tout ça, c'est bien.
oui, c'est rigolo parce que mon épouse, je dis toujours que je suis tombé en amour à l'âge de 14-15 ans et je suis toujours dans le même amour. Donc tout va bien. Et le problème, c'est que j'ai été très vite marié parce que ma belle-mère m'a dit que si jamais je disais non, elle était capable de me crever un œil. Donc du coup, il a fallu se préserver et j'ai donc dit oui à mon épouse. Et vous voyez, j'ai bien fait puisque elle est à côté là-bas et si elle entend, elle doit bien se marrer.
Alors,
Donc voilà.
effectivement, c'est la moindre des choses pour un fils d'opticienne de prendre soin de ses yeux et de répondre en anticipant une soumission à la belle-mère.
Ça.
Voilà un mode d'emploi qui me semble intéressant pour préserver ses vieux jours. Mais voilà, je voulais soulever parce que c'est un enchaînement quand même qui n'est pas forcément classique. Alors, tu disais ensuite que la vie de l'auto avait démarré. Alors là, on passe par les étapes habituelles de la vie d'un magazine et d'un journaliste qui démarre.
Oui, alors ce qui est assez formidable, c'est qu'évidemment, quand on démarre La Vie de l'Auto, pour les gens qui ne connaissent pas ce magazine, est donc un hebdomadaire qui est vraiment spécialisé dans la voiture ancienne et qui est une référence, qui était vraiment une référence au sens où tous les collectionneurs considéraient d'ailleurs le magazine comme une Bible. Ils le disaient souvent, ils utilisaient ce terme-là. La Vie de l'Auto, c'était la Bible. Et pour le coup, jeune journaliste ou pas, quand on arrivait sur un événement en étant accrédité par le journal La Vie de l'Auto, on était vraiment accueilli comme un être extrêmement formidable, parce qu'effectivement, il fallait, c'est pas il fallait, mais c'était extrêmement chouette de pouvoir se retrouver avec notamment sa voiture en une du journal, et ça faisait plaisir
Le
et ça
Graal.
flattait. Voilà, ça flattait beaucoup d'ego, ce qui d'ailleurs a été pour moi une chance assez formidable parce que j'ai très vite vu que des messieurs qui étaient très riches étaient très sensibles au fait qu'on les flatte et le fait de les retrouver, enfin de retrouver leurs autos dans le magazine était pour eux quelque chose d'essentiel. Donc, j'ai eu la chance, grâce à ça, de ne jamais tomber sur le, comment dirais-je, de jamais tomber dans les travers de la flagornerie. Et je sais que ça a toujours été très drôle parce qu'aujourd'hui, je dis toujours d'ailleurs que toutes les voitures, aussi précieuses et chères soient-elles, restent des jouets, des gros jouets, mais des jouets quand même, surtout les voitures anciennes qui, de base, sont obsolètes. Donc, on est juste là pour rigoler et il faut rigoler avec ces voitures.
Alors, on en revient aussi à une autre signature d'Igor, c'est-à-dire ne jamais se prendre au sérieux.
Non,
Et c'est ce qui assure une longévité idéale. Donc, c'est aimer ses jouets et savoir les remettre à leur place. Mais obsolète, on en reparlera tout à l'heure. Tu es capable quand même de les rendre non obsolètes, certaines anciennes.
oui. Bien sûr, l'idée quand je dis obsolète, c'est-à-dire qu'elles sont, c'est des autos qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être utilisées. C'est comme si, bah, justement, je continuais à utiliser ma machine à écrire électronique dont le papier passe au fur du temps. Ça n'a plus aucun sens avec l'ordinateur, avec etc., etc. Ça, alors c'est la machine, ok, comme une Remington, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est un bel objet. On peut jouer avec, mais en aucun cas l'utiliser de façon raisonnable et sérieuse. C'est la même chose que pour une voiture ancienne. Donc, Encore une fois, je considère que tout ce qui est de l'ordre de la mécanique ancienne, avion, bateau, moto ou tracteur, reste aujourd'hui des objets totalement obsolètes, mais qui nous font beaucoup rire.
Et la passion est là. Donc le journaliste qui démarre la vie de l'auto, qui se rend compte que c'est effectivement l'endroit et le Graal pour un certain nombre de passionnés, c'est merveilleux effectivement de pouvoir être là. On parlait d'ego tout à l'heure ou de propriétaires qui étaient bien heureux. Je rappelle que évidemment il y avait une absence totale de réseaux sociaux. Donc comme les principes humains sont les mêmes, l'endroit où il fallait être vu, bah, c'était pouvoir avoir la couverture d'LVA, de la vie de l'auto. Et ensuite, le service communication, une évolution qui se fait en combien de temps? Parce que tout ça, c'est pour finir rédacteur en chef, donc c'est pas rien.
Alors en fait, si, voilà, donc j'ai la chance qu'à un moment, on me prête quelques talents et du coup, on me propose de devenir l'adjoint du rédacteur en chef.
Pardon, hein, je te coupe. On aura entendu à nouveau à quel point, comme par hasard, tu as eu de la chance. Ça me fait toujours sourire parce que c'est une chance qu'on mérite et qu'on va chercher. Voilà, donc.
En tout cas, quoi qu'il en soit, donc j'ai la possibilité de devenir donc l'adjoint du rédacteur en chef, donc devenir moi-même rédacteur en chef adjoint, c'est la dénomination, et je fais ça pendant 3-4 ans. Alors, j'ai pas trop la mémoire des chiffres en fait, mais c'est de cet ordre-là. Et il se trouve que c'est un poste qui est assez sympa, mais assez ingrat, parce qu'en fait, on relie beaucoup les autres, on sort de moins en moins, les 35 heures sont passées par là, et c'est extrêmement compliqué de pouvoir bosser sur des reportages le week-end et de continuer à travailler la semaine parce qu'on n'a plus le droit. Il faut rattraper les heures, etc. Enfin, il y a tout un truc très compliqué.
Non, mais faut insister, c'est-à-dire que ça l'était, ça l'est devenu encore plus avec les modifications
Ah ben,
législatives.
absolument. Et à partir de ce moment-là, eh ben, je commence joyeusement à m'emmerder. Et comme je suis pas un garçon à rester dans les mêmes, dans les cases qui sont pas drôle.
Et puis on n'a pas
Je
encore parlé du mot hyperactif, mais on peut le glisser comme ça.
Oh, peut-être pas. Mais en tout cas, je vais donc voir mon patron, lui disant voilà, le service communication n'existe pas, et vous avez des événements. Le groupe de presse LVA, c'est les motos avec les coupes Moto Légende, des titres qui sont la vie de la moto, Moto Légende justement, un salon qui se passait au parc Floral à Paris à Vincennes. Donc le moto salon, ça s'appelait le Grand Prix de l'Âge d'Or, qui est un énorme événement de voitures anciennes qui se déroulait sur le circuit de Montlhéry. Bref, il y avait quand même pas mal d'événements et puis tous ces titres, hein, qu'il fallait promouvoir pour pouvoir continuer à les vendre le plus possible. Donc je suis allé voir mon patron, je lui ai proposé de créer ce service et après quelques hésitations. On a réussi à avoir gain de cause et je me suis retrouvé responsable technique des Grands Prix de l'Âge d'Or et aussi commissaire général de Moto Salon, donc au Parc Floral de Paris-Vincennes.
Et donc ce cumul de fonctions qui est venu, au bout de combien de temps?
Je sais pas, ou une quinzaine d'années.
Donc c'est un retour du terrain, enfin c'est reprendre goût au terrain.
Oui, alors l'idée c'est qu'effectivement, moi il fallait absolument que je bouge. Et en l'occurrence, c'était exactement ce qui s'est passé. Et ça, grâce aux événements, effectivement, je pouvais enfin sortir de mon bureau et enfin aller sur le terrain. Donc, novembre 2002, on veut fêter le centenaire qui est en 2003 d'Harley Davidson. Et alors, de l'occasion d'une réunion de rédaction, de direction même, on dit, bon, voilà, c'est quoi le plan? Et je dis, bah, si on réfléchit bien, Harley Davidson en France, qui peut représenter Harley Davidson, qui est celui qui symbolise le plus Harley Davidson en France? J'ai dit Johnny Hallyday. Et donc voilà, bah, tu vois, tu ris, et donc tout le monde a ri,
Évidemment, l'audace.
sauf le patron qui m'a dit, écoute Igor, on est en train de travailler, donc si tu pouvais être un peu sérieux, ça nous arrangerait. Donc, mon patron n'a pas pris ça bien du tout. Et voilà, assez cocasse. Mon ancien rédacteur en chef, qui était aussi directeur des rédactions, m'a dit, écoute, Igor, ça va 5 minutes. Puis en plus, si tu y arrives, je suis prêt à t'embrasser sur la bouche.
Donc, c'est peut-être
c'est
pas
pour
ça
vous
qui te
dire
motivait.
que, ouais, c'est pour vous dire que ça rigolait pas et que c'était vraiment histoire de dire que j'avais vraiment autre chose à faire que de perdre mon temps à sortir des boutades en codir. Et puis, j'ai quand même tenté le coup. C'est-à-dire que j'ai réussi, je me rappelle plus exactement comment j'y suis parvenu, mais enfin, j'ai réussi à trouver l'adresse de son bureau à Paris, à Johnny Hallyday. Et je suis donc parti pour l'écrire une jolie lettre. À l'époque, on écrivait à la main encore, quand on voulait s'adresser à des personnes qu'on considérait comme importantes. Et donc, je vais écrire un courrier à la main. Et
Donc c'était pas, pardon, c'était pas par réseau, c'était vraiment, je le sens, je veux prendre contact avec lui, je le fais à l'ancienne.
absolument, j'avais strictement aucun contact, oui, il n'y a personne pour pouvoir m'aider dans cette démarche-là. J'y suis allé vraiment à fond la caisse et au culot. Et le temps se passe, alors j'ai dû faire ça, je sais pas, j'ai dû faire ça au mois de, je sais pas, juin, mai, juin, alors que la manifestation, je vous le disais, hein, le salon avait lieu fin novembre. Et bon, et puis voilà, j'ai renvoyé la lettre, bon, on s'occupe d'organiser le salon, on fait une très belle expo avec Harley-Davidson France, des motos anciennes, c'est magnifique. Et donc le salon avait lieu le vendredi, ouvrait le vendredi soir et fermait le dimanche soir. Et en plein montage, le mercredi midi, mes équipes sont déjà au restaurant pendant la pause déjeuner, et je me souviendrai toute ma vie, je rentre dans le restaurant et là je reçois un coup de téléphone. Et je reçois un coup de téléphone et allô, un tel, je ne me rappelle plus, un prénom, je suis le chauffeur de Monsieur Johnny Hallyday. Et là, j'ai eu un quart de seconde, voilà, et j'étais parti pour lui répondre, bienvenue, vous êtes au secrétariat de l'URSSAF. Et non, et je me suis repris, oui, je vous écoute. Et c'était le chauffeur de Monsieur Johnny Hallyday, le vrai chauffeur, le vrai Johnny Hallyday.
C'est mieux.
Et donc il est venu. Alors, je vais quand même vous raconter un truc parce que c'est rigolo, tant pis,
C'est passé.
c'est passé. Déjà, il a fallu que son chargé de communication, pas de communication, de sécurité, passe, parce que moi je voulais lui ouvrir les grandes portes, etc. On m'a dit hop, 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 surtout pas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous nous indiquez où sont les portes qui, justement, sont les portes dérobées. Bah, écoutez, je suis désolé, mais ça se passe que par les poubelles. Enfin, c'est pas. Ah non, mais c'est pas un problème. Et donc, on a fait tout le tour. Le salon était évidemment déjà monté. Hein, donc, on a fait tout le tour du salon pour savoir quelles étaient les voies qu'on allait emprunter avec Monsieur Johnny Hallyday. Alors, je dis Monsieur Johnny Hallyday parce que c'est comme ça qu'il parlait de lui. Hein, je trouvais ça. Donc on fait le truc, le chargé de sécu dit bon, c'est OK, vérifie les portes, les entrées, les machins, etc. C'est bon, il vient samedi matin. Il vient samedi, il sera là à midi. Même. Et
Du coup,
donc,
pardon, quelle est ta période de débrief avec le comité de rédaction?
alors là plus personne ne me parle en fait. Hein. Ils sont tous complètement sous anesthésie. Je suis un peu aussi. Hein. Parce qu'on se dit. On est dans une espèce de merde épouvantable parce qu'on n'a jamais fait ça. Comment ça va se passer, etc., etc. Bref, de toute façon, on s'est lancé, on y va, on fonce et puis on verra bien. Et donc, midi, samedi matin, midi et quart, toujours en rien, midi et demi, il n'est pas là. Donc là, inutile de vous dire que pour le jeune homme que je suis à l'époque, je commence à être un peu inquiet.
On appelle ça l'ascenseur émotionnel.
C'est tout à fait ça. Et là, je vois apparaître à 1 heure moins le quart un énorme humeur qui se jette sur le trottoir. Et là, je vois deux zébulons qui sortent de ce humeur et qui se précipitent de chaque côté d'une benne à ordures. J'avais d'un côté Paul Belmondo, qui était venu accompagner son ami Johnny Hallyday, et de l'autre côté, j'avais Johnny Hallyday. Je vous laisse donc imaginer la vision que j'ai eue pour la première fois de Johnny Hallyday en vrai. C'était tourné le dos contre une benne à ordures avec son ami de l'autre côté, avec son ami Paul Belmondo de l'autre côté.
Et donc, réussite réussite.
Après, donc évidemment, il a fait cette affaire, hop, il est revenu, il est passé par les poubelles, on l'a emmené tout de suite dans un beau, une belle petite salle, un petit bureau pour lui proposer champagne, machin, etc. Soit connu, il a répondu en sortant son paquet de gitane, si on pouvait plutôt lui trouver une bière plutôt que du champagne. Et on a fait la visite ensemble, ça a été un moment absolument effarant, parce qu'on ne comprenait pas toutes ces histoires de chauffeurs, de sécurité, de visite, de trucs, machin, etc. Là, pour le coup, on a compris, puisqu'on a vu notamment une jeune femme faire un bond de pied ferme de presque 1,50 m pour se jeter au bras de Johnny Hallyday. C'est son chargé de sécurité qui a attrapé la jeune femme par les hanches pour la reposer par terre fermement. On a vu un autre monsieur qui, lui, avait un superbe t-shirt avec la tête du loup d'un côté, Johnny de l'autre, et qui s'est retourné parce qu'il sentait qu'il se passait quelque chose derrière lui, et pour le coup, qui s'est retrouvé nez à nez avec Johnny Hallyday. Donc lui, il a failli qu'on le réanime. Ça a été quelque chose
Non, c'était les
d'absolument...
années de grande folie dès qu'il apparaissait quelque part.
C'était vraiment absolument... C'était aussi fou que lui était simple et accessible. Et je sais que ça a été un moment de vie pour moi, en fait, parce que ça a été un déclencheur. De voir cet homme à l'apogée de sa notoriété, être aussi simple, aussi avenant, aussi cool. Allez, je mettrai un petit franc dans le Nurin. C'était vraiment quelque chose de touchant. Et
Et de formateur, du coup, oui.
évidemment de formateur. Quand donc on lui a fait essayer quelques motos, etc. Et puis à un moment, il a bien fallu repartir. Donc ils sont remontés dans le Hummer, ils sont repartis. Et nous, on a poussé un grand souffle de soulagement avec mes équipes parce que ça s'était bien passé, ça s'est passé. Et ça, pour moi, a été l'occasion de me dire, j'ai fait mon temps aux éditions La Vie de l'Auto, je vais aller voler de mes propres ailes.
C'est finir en panache pour LVA.
Il fallait partir sur une bonne note.
Il y a eu des excuses quand même de le fait de ne pas y avoir cru, ou
Alors,
du moins des remerciements.
pas eu trop de remerciements. Par contre, le rédacteur en chef s'est senti obligé de me courir un peu après, en la prochaine réunion de codir, pour m'embrasser sur la bouche, que j'ai décliné, étant bien élevé. Et donc, voilà l'histoire de mon passage d'une quinzaine d'années du côté du groupe des éditions LVA. Et ce qui est très rigolo, c'est que depuis, on est en très bon terme, hein, y a aucun souci. Et depuis, on m'a redemandé de leur faire quelques piges, quelques trucs comme ça.
Bah
Donc.
forcément, forcément. J'ai pu finir avec autant de panache. Ce qui ressort de tout ça, une fois de plus, hein, c'est pour ça que j'insiste, c'est que c'est l'audace. C'est-à-dire que faut oser, faut se prendre en main. C'est pas évident à dire, mais c'est en illustrant avec des exemples incarnés, on se rend compte à quel point on a tout le monde qui vous dit c'est pas possible, qui vous prend pas au sérieux, et on y va. On prend son papier, son crayon, parce que c'était les habitudes de l'époque. Et on se lance et on accouche de sa demande, aussi osée soit-elle.
Je crois que c'est du côté de chez Latécoère, hein, que ça se passait comme ça, où on disait, je sais plus si c'est Monsieur Latécoère d'ailleurs qui avait dit, on ne savait pas que c'était impossible, du coup on l'a fait, quoi. Hein, c'était.
Exactement. Alors j'ai recité cet adage sans citer Latécoère tout à l'heure, mais parce que définitivement, on se rend compte que dans les parcours à succès, il y a systématiquement le moment où on se réveille en disant bon, bah donc si c'est impossible, moi ça me tente, hein, donc on y va. Et là, c'est tout à fait le cas, et ça marque aussi une envie de passer à autre chose. Donc il y a deux grandes pages assez fortes, hein, finalement. Il y a la partie où on est au cœur d'une marque connue et reconnue, où on évolue jusqu'à son apogée, et ensuite l'envie d'une autre aventure. Donc c'est un peu un livre à deux pages de 20 années là, qui vont se fermer et s'ouvrir, l'un au service d'eux et l'autre dans une indépendance et une liberté nouvelle.
Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Alors c'est vrai que quand on est dans la liberté nouvelle, à un moment on se dit, mais quelle idiotie, on n'aurait jamais dû, parce que évidemment, c'est des parcours qui sont parfois semés d'embûches. Néanmoins, avec évidemment le recul, on se dit, vu tout ce qu'on a eu l'occasion de faire et d'entreprendre après être parti de sa première tranche de vie, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté, surtout qu'a priori elle est courte. Et donc il faut absolument profiter à fond des opportunités qui s'offrent à nous, même si parfois effectivement il y a des moments où c'est pas que simple, hein, on va pas non plus...
Alors, cette partie justement de réalité de l'entrepreneur, faut pas la cacher. Il y a effectivement des moments compliqués, surtout dans les transitions, j'imagine.
Alors non.
Gâté il fut.
Totalement, pour la bonne et simple raison que quelques très belles entreprises avaient eu vent de nos activités, et une d'entre elles, une agence d'événementiel à Paris très reconnue, notamment pour l'organisation de la caravane du Tour de France, donc une maison sérieuse, avait un client à l'époque qui s'appelle le Cheval Français. Et donc, toute l'institution des chevaux de course de trot, et notamment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et ces gens-là veulent faire une manifestation au sein de l'hippodrome avec des voitures anciennes.
Ce qui n'était pas encore très pratiqué du tout, effectivement.
Pas pratiqué du tout. Enfin, pas beaucoup pratiqué. Il y avait quelques velléités du côté du galop avec le gratin du panier, ça s'appelait, je me souviens. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment une manifestation populaire avec beaucoup de clubs, etc. Donc, on avait fait une très très grosse manifestation qui leur avait beaucoup plu. J'avais créé ce truc-là. Et quand j'ai quitté les éditions Alvea, en fait, le Cheval Français m'a carrément contacté pour me dire voilà, Igor, on voudrait travailler avec vous, et on voudrait surtout que vous nous prépariez les festivités en amont de la course du Prix d'Amérique. Et
petite pression.
Et donc, en fait, je suis arrivé chez mon banquier avec un gros chèque par le Cheval Français. Et je me souviendrai toujours du banquier qui, quand j'ai dit je montais une agence événementielle, s'est mis au fond de son bureau comme ça en disant encore un qui veut faire faillite. Et quand j'ai posé le chèque sur son bureau, il s'est tout de suite rapproché, les bras se sont décroisés, le sourire s'est ouvert. On a senti que cet homme était heureux, tout simplement.
Je viens chercher bonheur.
Voilà, c'est ça. et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. J'ai travaillé pour le Cheval Français. Après, un grand club qui s'appelle le Club de l'Auto m'a demandé, Igor, travaille pour nous, on voudrait que tu nous organises le Rallye Paris-Deauville, qui était un peu en décrépitude. Et donc, moi, j'avais connu à l'époque les grandes heures de cet événement qui partait du Trocadéro avec la garde à cheval, enfin la musique de la garde à cheval qui sonnait trompette et faisait fanfare au passage de 80 bolides qui venaient de partout en Europe. Et nous partions du côté de Deauville. Donc, ça, c'était une manifestation qui était assez prestigieuse. Et donc, j'ai produit pendant 3 ans. Et puis ensuite, il a fallu changer. C'est là aussi, on avait atteint la limite. Et changer pour changer, non, changeons aussi de région. Et c'est pour ça que je suis venu me mettre dans un coin merveilleux de France, qui est la Charente inférieure, et dans laquelle nous sommes divinement bien. Et qui n'est pas forcément un endroit où on trouve beaucoup de travail, donc il faut vraiment le créer. Donc c'est pour ça que c'était un nouveau challenge qui s'ouvre à moi.
Mais ça lui fait pas peur, Igor. Et en plus, la Charente inférieure qui t'a accueilli aussi pour le confinement, ça a permis de faire les choses au calme. C'est une autre façon de se poser.
C'est vrai, c'était bien avant le confinement, heureusement.
Oui.
Mais c'est vrai que ça a été assez compliqué aussi, hein, parce que des fois, on a des bonnes idées, des contrats qui sont prêts à être signés, qui vont pas tarder à bientôt être prêts à être signés, qui finalement tombent à l'eau. C'est ce qui m'est arrivé. Et il a moment fallu vite se renouveler. J'ai donc repris un poste à la mairie de Vaux-sur-Mer. Je sais que c'est un endroit qui t'est cher.
Oui.
Et dans lequel j'avais deux missions, celle d'organiser les événements pour la mairie et d'écrire le bulletin municipal. Alors, ça faisait un moment, hein, que j'avais arrêté d'écrire, puisque j'avais quitté la rédaction de l'LVA. Et en fait, je me suis retrouvé à écrire sur des personnalités locale, mais des personnalités comme un président de judo. Il faut savoir qu'à l'époque, alors je ne sais pas s'il est encore actif, mais il y avait un président de judo au club de Royan qui était ceinture rouge et blanche. Et cette ceinture rouge et blanche, je n'avais même pas idée que ça existait. Et donc, ce monsieur était de fait passionnant, puisque je savais pas que ça existait, et m'a expliqué que c'était effectivement une ceinture honorifique qui allait au-delà de la ceinture noire et des danes qui vont avec. Et donc, tout ça, en fait, pour m'a redonné envie d'écrire et m'a redonné le goût du journalisme qui finalement couvait. Et j'ai rappelé tous les petits camarades de la région parisienne, bah, qui notamment tous les pigistes à l'époque où j'étais rédacteur en chef, bah, qui avaient évolué. Certains avaient même créé des magazines. Alors, pas seulement dans le monde de la voiture ancienne, mais parfois dans le bateau, dans l'aviation et aussi dans l'automobile, du coup. Et en fait, j'aurais dit, voilà, je suis sur la façade atlantique. Si vous avez besoin d'un correspondant, un pigiste, machin, etc., sachez que, hop, je peux faire
Je dégaine.
Brest. Voilà, je peux faire Brest, Biarritz et Cherbourg et Saint-Tropez s'il faut, mais je suis capable d'aller me déplacer pour vous et vous faire les papiers. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que
Recommence.
les garçons en question ont eu la reconnaissance du ventre et se sont souvenus des portes que j'ai ouvertes à l'époque où eux étaient demandeurs. Et ce qui fait que je me suis retrouvé pigiste pour tout un tas de magazines et ce qui m'a permis
Au
de
moment où
pouvoir.
c'était utile pour toi, bien sûr.
Exactement. Et comme j'avais entrepris une petite carrière de speaker d'événements automobiles à l'époque où j'étais encore à la ville d'auto, que j'avais totalement arrêté, je me suis rappelé que ça existait et que j'étais capable de le faire et que prendre un micro, pourquoi pas, ça pouvait être une solution. Et j'ai envoyé des CV à droite et à gauche et les gens qui y sont pris savent souvent que, en fait, bah, le CV arrive au bon moment quand il faut qu'il arrive. Et ce qui fait que j'ai entamé une carrière vraiment, parce que là pour le coup c'est vraiment devenu professionnel de speaker, c'est comme ça que j'ai fait évoluer ma carrière et là pour le coup j'y suis depuis un certain temps.
Et effectivement, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, la question du monde automobile et tous les événements, parce que là, on n'aurait pas assez de 5 heures pour lister tous les endroits, parce que c'est merveilleux, la multiplication des événements et des initiatives qui ont été prises en France, dans toutes les régions, plusieurs fois par an, et sur plusieurs années, font que tu n'as plus jamais quitté le terrain et que partout ça bouge, où ça parle. D'une vieille pétoire et d'une aventure automobile, Igor est là et ça c'est devenu incroyable parce qu'on n'aura pas assez de plusieurs émissions pour lister tous les univers. Donc je voudrais te redonner la main particulièrement parce que après tout le titre de l'émission c'est de dire que le Yacht Club des avions de la route Kezako, et là tu viens de parler de tes amis journalistes qui sont dans tous les univers et je voudrais que tu nous éclaires maintenant sur ce qui t'a amené à créer les avions de la route et ensuite le Yacht Club, parce que c'est assez révélateur d'une ambiance, d'un état d'esprit, d'une personnalité. Et après tout, comme on a posé la question en présentant l'émission, on se doit d'y répondre.
Alors effectivement, en 93 ou 94, donc là, je suis journaliste à la ville d'Auto, et le patron décide, alors je suis responsable des relations avec les clubs, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les communiqués de clubs, les assemblées générales, les carnets noirs malheureusement, enfin bref, etc. Et mon patron dit, ça serait vraiment une bonne idée commerciale de faire un guide du collectionneur dans lequel on mettra toutes les adresses de notre fichier et qui nous permettra pour le coup de donner un outil à nos lecteurs qui sera vraiment formidable. Et moi de répondre en levant le doigt et en attendant de prendre quelque chose. Quand on était gosse, on avait peur de prendre la chiffonnette en bois, là, tu sais, qui essuyait les tableaux. Là, pour les coups, j'avais peur de prendre je ne sais pas quoi. Enfin, bref, je baissais la tête en disant ça. Et en fait, je dis, bah, c'est quand même dommage, parce que là, pour le coup, ça veut dire qu'on va, en fait, donner tout notre fichier à toutes les grandes entreprises du coin, et ma foi, on n'aura strictement aucun retour. Enfin, pour moi, c'est vraiment quand même dommage. C'était vraiment un fichier à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, encore une fois, hein, on était
Oui, c'est pour
vraiment dans.
ça. Donc, attends, que je résume, c'est donc, ça vient au-dessus de toi, une idée en disant, il manque un guide du collectionneur, ça vaut le coup de le concevoir. Sous-entendu, Igor, voilà un nouvel os à ronger, ça devrait te plaire. Et d'instinct, tu trouves qu'il y a un bug.
Ouais, c'est tout, enfin, c'est toute la rédaction hein,
Oh
qui
là
est
là.
entre guillemets là-dessus. Et moi, je dis effectivement, attention, le problème est que ça va à un moment, enfin, ce fichier d'adresse colossal, les
Ça va partir à
clubs,
tort et à travers, quoi.
musées, bah, enfin voilà, on l'offre à tous ceux qui voudront le prendre. Et donc, j'ai dit, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de créer un faux club, donc une fausse adresse dans le guide. Et pour vous montrer que je m'engage et que je suis sûr que ce que je dis est vrai, je vais mettre le faux club à mon nom et à mon adresse dans les colonnes de la vidéo pour dire que ce nouveau club existe. Voilà. Et comme ça, vous pourrez constater que ben, j'imagine, et tout un tas de prospectus vont tomber dans mon adresse avec le nom de mon club, etc. etc. Et étant passionné d'aviation, puisque j'ai usé mes fonds de culotte chez Jean Salis, la route, bah, évidemment. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un jeune dessinateur qui travaille depuis peu pour la ville d'Auto. Et ce jeune dessinateur, en fait, est aujourd'hui une véritable célébrité. On l'appelle Monsieur National 7. Il s'agit de Thierry Dubois.
Ah, Thierry Dubois.
Dubois, et je lui dis à Thierry, écoute, est-ce que tu veux bien me faire un petit logo? C'est pour une connerie, c'est juste pour une fausse adresse pour mettre dans la ville d'auto, puis ensuite dans le guide. Ah oui, pas de problème. Et il me fait un dessin qui est évidemment une merveille, parce que le malheureux, chaque fois qu'il prend son crayon, ça fait du
Ah,
génie.
ça y est, tout ce qui touche
Et
devient de l'or, oui.
donc, on met l'adresse dans la ville d'auto, on met l'adresse dans le guide, et évidemment, ça loupe pas. J'étais très fier du fait que ça loupe pas, d'ailleurs, pour le coup. Je reçois des assureurs, je reçois.
Donc t'as confirmation que t'es vampirisé, quoi, et qu'il fallait effectivement rester confidentiel sur ce guide.
En tout cas, voilà, qu'il fallait peut-être trouver une autre solution pour les collectionneurs. Et je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres d'un petit. Libraire toulousain, alors je dis petit dans le sens où sa boutique faisait 8 mètres carrés.
Ah, génial.
Et le libraire en question est un garçon qui s'appelle Jean-Claude Amiard et qui a été ensuite une véritable pointure, une véritable signature pour un des magazines du groupe qui s'appelle Autorétro. Et donc ce garçon dit, je veux faire partie du club. Donc, désolé, mais en fait c'est un faux club, il n'y a pas de club, c'est. Ah, mais si, si, les amis de la route, ça doit être un club. Ah, bon. Et donc, Dubois, Jean-Claude Amiard, Igor Bietri, les pieds nickelés sont en route, et c'est là que tout dégénère, monsieur le juge, puisque c'est une, on part sur une bêtise, puisqu'on part sur un mensonge, et ben poussons le bouchon jusqu'au bout et faisons fonctionner le cercle des agneaux de la route. Et pour ce faire, on organise en 80, je crois que j'organise en 97 un meeting de bateaux anciens. Alors pourquoi de bateaux anciens? Parce qu'on avait, j'habite à l'époque, j'habitais près de la Seine, et sur la Seine, il y a des bases de vitesse, et donc on pouvait faire naviguer des bateaux vite. Et il se trouve que le deuxième week-end mars, nous avions un événement magnifique qui s'appelait le Bugatti à Montlhéry. Qui était organisé par Jean-Michel Serède, un petit monsieur absolument fabuleux, qui était assureur.
C'est lui qui avait
Et
un sens de la météo aiguë?
exactement, il avait un dans la mesure où, puisqu'il était assureur, ils avaient des archives météo, puisqu'encore une fois, il n'y avait pas de bulletin météo, il n'y avait pas Internet, encore une
Donc
fois.
il
Donc,
se nourrissait du passé.
voilà, lui avait les informations comme quoi, et qui étaient tout à fait vérifiées, comme quoi il n'avait pas plu depuis quelque chose comme 40 ans. Le deuxième week-end de mars en Île-de-France. Et organisé donc, à ce titre, Bugatti à Montlhéry le samedi. Et du coup, le dimanche, il ne se passait rien. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, ça pourrait être drôle que, justement, toutes les belles autos, les Bugatti et toutes les autos contemporaines qui viennent à Montlhéry le samedi puissent profiter de notre manifestation le dimanche, voir les bateaux naviguer. Donc, on a fait
Quand
venir.
on a le sens de l'événementiel.
Voilà, du coup, on a fait venir des bateaux d'Angleterre, de Venise, tout le monde venait pour faire plouf-plouf avec nous à Port-Saint-Denis. Donc,
Et je rappelle pour un événement qui n'était pas de réputation internationale, hein.
pour le coup, il n'y avait strictement aucune réputation de rien du tout, puisque c'était une première. On était complètement hystérique de faire un truc pareil. Et donc, on a lancé ce truc-là. Ça a superbement bien marché. On a beaucoup rigolé. On avait des autos complètement indécentes sur le parking et des bateaux qui n'étaient pas moins dans l'eau. C'était merveilleux. On avait même obtenu, je me souviens, alors on avait FR3 évidemment, mais surtout, on avait obtenu quelque chose comme 2 ou 3 minutes dans Turbo, puisque Turbo était la nouvelle émission phare de la mécanique déjà à l'époque. Et je crois que, voilà, c'est ça. Et je crois que c'est la seule et unique fois que Chapat a parlé de bateau dans son émission. Mais ça avait de la gueule, hein, c'était vraiment chouette. Et en fait, puisqu'on avait une manifestation nautique, le Cercle des Avions de la Route est devenu le Yacht Club des Avions de la Route.
L'acronyme.
Voilà, le principe ICAR, voilà, donc on a essayé de se brûler les ailes le moins possible.
C'est merveilleux, c'est-à-dire qu'avec Yacht Club des Avions de la Route, on regroupe finalement l'histoire de cette folie, dont j'avais noté quelque chose au moment où nous préparions l'émission, pour montrer à quel point on se prend au sérieux. Déclaré nulle part et affilié à personne.
C'est un cercle déclaré nulle part et affilié à personne.
Voilà, donc ça donne le ton de cette philosophie qu'on aime et de ce...
Pas de président. Le seul grade à l'intérieur de ce faux club est donc le terme de squadron leader, puisqu'on est une escadrille de fous furieux. Squadron leader, là, c'est pas Murat. Là, tu ne te secoues pas sur ce coup-là, parce que c'est vraiment une dénomination
générique.
Vraiment, ouais, la générique, et puis surtout qui représentait bien sûr, il y avait un petit peu de la grande vadrouille, hein, avec le big moustache et ce genre de choses. Donc bon, et on trouvait ça très drôle. Et en fait, l'idée est partie comme ça et a dégénéré grâce ou à cause de Facebook, puisque avec les années. On a proposé de créer un groupe sur Facebook et qui a eu un succès complètement international. On a des membres au Brésil, en Australie, en Indonésie. Enfin, c'est complètement drôle. Et en fait, l'idée, c'était pas seulement de faire les fous et de faire ces jacqueries, mais c'était aussi de réunir du coup toutes les enfin, tous les documents et toutes les archives qu'on retrouvait, notamment les archives photographiques sur le mélange des genres, en fait. Et ça, d'un point de vue historique, c'était très intéressant parce que on s'aperçoit en fait qu'au début de l'aviation, au début du motonautisme et au début de l'automobile, il y avait des passerelles permanentes et que des bateaux étaient mus par des moteurs d'avion, les voitures étaient mues par des moteurs d'avion, et que certains avions étaient propulsé par des moteurs de voiture, etc., etc.
C'était cette liberté, pardon, je te coupe, c'est cette liberté industrielle des années 20, d'une certaine manière. Tu dates ça quand?
Alors en fait, c'est bien avant les années 20. On parle plutôt quasiment du début du siècle. Hein.
Ah oui.
Ah oui, c'est-à-dire que les Grands Prix de Monaco,
oui.
Grands Prix de Monaco qui sont vraiment des rendez-vous industriels. Hein. On fait les Grands Prix, on fait les courses. Ça a été valable évidemment pour l'automobile, pour mettre en valeur l'industrie. Pas oublier que c'était vraiment le seul moyen de communication qu'avaient les constructeurs, c'était les épreuves sportives, quelles qu'elles soient. Des courses sur l'eau, des courses aériennes, il fallait absolument se montrer dans les journaux et pour ce faire, eh ben, il fallait faire des exploits. Et donc ça a été vraiment quelque chose qui a été fondateur pour toute l'industrie aéronautique.
Mais c'est là où ton nom est émouvant, parce que Yacht Club des Avions de la Route, ça reprend pleinement cette beauté créatrice de la France et tous les grands industriels, pas que de la France, dans ces années-là, entre l'aéronautique et l'automobile. On rappelait également, avant qu'on ne se retrouve à l'antenne, mais qu'au salon récent, les 50 ans de Rétromobile, il y avait été présent également un objet iconique qui regroupait un mélange entre deux industries, si tu peux... refaire un point sur ce clin d'œil de cette année.
Non, les auditeurs ont sans doute entendu parler de cette Touareg Bugatti qui a été amené depuis Mulhouse jusqu'au parc des expositions de Paris pour cette occasion, pour ce cinquantenaire. L'Autorail Bugatti est ému par des moteurs qui en fait étaient conçus pour être les moteurs des fameuses Royales, les Bugatti Royales, c'est-à-dire le summum de l'absolu, de la beauté, de etc., de l'automobile. Et malheureusement, l'industrie étant ce qu'elle est, le constructeur de Molsheim qui a eu quelques difficultés à vendre ces énormes voitures et du coup ces énormes moteurs. Et quand les chemins de fer ont proposé de faire des autorails, il avait trouvé très, très vite et très simplement l'idée de réutiliser ces moteurs pour pouvoir justement les utiliser dans la construction de cet autorail. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que on a encore en France alors des artisans pour restaurer, pour maintenir, etc. Mais on a aussi des gens qui sont assez fous dans nos musées, ce qui est quand même assez rare, pour prendre le risque de déplacer cet engin qui fait 25 ou 28 mètres, je crois, j'ai plus les chiffres en tête, qui en plus, pas de chance, à la Cité du Train se trouve en bout de quai. Il y a quatre ou cinq vapeurs, enfin en tout cas cinq matériels qui sont devant. Donc il faut déplacer avec beaucoup de précautions, parce qu'on rappelle qu'on est dans un cadre d'un musée, qu'il faut déplacer. Alors évidemment, ce n'est pas le musée de la petite cuillère, hein, donc après, il faut les déplacer. Les machins, ça fait des dizaines de tonnes. Pas coincer les aiguillages, parce que là, sinon, c'est une catastrophe absolue. Et bref, ils arrivent à sortir l'autorail Bugatti. Donc à l'installer sur une remorque qui fait 35 mètres de long pour l'amener à Paris. Alors évidemment, la France est un pays merveilleux avec aujourd'hui beaucoup de petits ronds-points qui pour le coup sont une chienlit de la pire espèce. Et donc le seul rond-point évidemment que nos amis se sont autorisés et pour le coup ils n'auraient pas manqué, c'était celui des Champs-Élysées évidemment. Et donc on passait ce merveilleux rond-point pour le coup. Avec l'autorail qu'ils ont ensuite installé dans le hall d'exposition de Rétromobile. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à l'heure où on se parle, ils doivent être presque rentrés, en tout cas on l'espère pour eux, puisque la belle aventure d'amener l'autorail impliquait quand même le fait que l'autorail reparte à bon port et retrouve son musée. Mais encore une fois, le directeur du musée a été à fond dans cette idée, a dit, moi, je ne veux pas me contenter uniquement contenter des billets d'entrée à la fin de la journée, moi, je veux qu'on fasse des choses. Et la conservatrice du musée, qui est une toute jeune femme, a dit, mais oui, c'est une très bonne idée, il faut foncer. Et la médiatisation de ce déplacement, la médiatisation de l'autorail ont été extraordinaire, et je pense que la Cité du Train n'aura jamais fait parler autant d'elle qu'à l'occasion de cette très belle aventure.
Et on en revient aussi au courage de certaines personnes qui ont dit oui, allez, on tente l'aventure parce que c'est plutôt une source de complications.
Ça
Donc
n'est que de la complication, hein.
c'est
C'est que des emmerdements en barre.
ceux qui
Et
ont ceux qui ont pu en
un monde
bénéficier sur
d'emmerdements.
place. Oui, exactement, ceux qui ont un wagon d'emmerdement, ceux qui ont pu en bénéficier sur place ne touchent pas du doigt ce que ça sous-entendait à logistique. Je vous propose une petite coupure avant de nous retrouver, car cette émission donc est enregistrée et va être diffusée début février. Et je vous retrouve dans 2 secondes.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Benoît Duchâtelet, toujours à l'antenne du Libre Journal des Artisans, toujours endeuillé de Benoît Aglon, qui n'est pas là pour quelque temps, mais réjoui de la présence d'Igor Bietri, qui est avec nous en Charente inférieure et qui a quitté la capitale. Il avait à nouveau une magnifique événement automobile. Nous allons faire un point précis et musical peut-être, parce que je voudrais te soumettre un petit son qui, chaque fois que je l'entends, me fait penser à toi. Peut-être que tu n'avais pas besoin d'un moment aussi long pour avoir reconnu.
C'est comme ça que tu traites tes invités, en fait.
Pour essayer de le faire de la même manière. Mais effectivement, dès que j'ai ce son en tête, je te vois sur un des véhicules et avec le même regard et la même énergie. Et,
ce qui est marrant, c'est que quand on écoute ce son, et même si on ne connaît pas le contexte, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de farceur.
Malgré le nom des protagonistes.
Et l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qu'on aime, c'est jouer. Hein, je disais, on parle de véhicules qui sont obsolètes, on parle de véhicules qui pourraient rester au fond de musée et puis basta. Non, on est dans quelque chose de joyeux, de potache souvent, je le reconnais, mais qui, ma foi, nous rend vivants. Alors, avec mes...
Tu peux dire ce que c'est pour les auditeurs, quand même.
Non, je ne veux pas, j'ai peur. Parce que ça va rester, et puis après, tout le monde va se moquer. Donc, les autres, c'est les brouillons, parce que je te rappelle que j'ai quand même des amis qui vont entendre, évidemment, cette émission, qui vont la voir aussi, sans doute, et qui vont pas se gêner pour ensuite me ressortir ça autant de fois qu'ils ont. Donc, au moins, ils ont le mérite d'être allés chercher la référence.
En bon français, ils vont chasamer, d'accord.
Voilà, c'est ça. Ils ont ça.
Mais voilà, je voulais te dire qu'effectivement, pour moi, c'était systématique parce que, alors, il nous reste une vingtaine de minutes et je voudrais justement qu'au milieu de ces moments fantasques et plaisants, parce que la vie est tellement plus agréable comme ça, tu nous fasses un point sur les tours que tu as organisés l'année dernière et que tu vas organiser cette année, en avril 2026, et le contexte, parce que s'amuser, c'est bien, mais faire plaisir, c'est bien aussi. Et donc, ce partenariat que tu as avec les orphelins apprentis d'Auteuil, tu veux bien aborder le petit quart d'heure d'humanité à cette rencontre.
Oui, parce que, encore une fois, on parle de jouer, mais mes deux acolytes avec lesquels on a fait les 400 coups, et certains nous ont même croqué en pieds nickelés. On a donc, effectivement, on est parti du principe un jour... Je crois que c'était en 2018 où je ne sais plus avec qui, je crois que c'est avec Jean-Claude, Jean-Claude Amia.
Oui.
On parle de toutes les facéties qu'on a pu écrire, et Dieu sait si on ne s'est pas gêné pour le faire. Et je crois que c'est Jean-Claude qui dit, mais bon, en fait, on a écrit beaucoup de trucs, machin, etc., mais finalement, on n'a pas fait grand-chose. Et je lui dis, oui, c'est vrai, tu as raison, et... Il me dit qu'il faudrait peut-être quand même se grouiller un peu, parce que sinon on va finir par faire des courses de déambulateur à l'EHPAD. Et là, ça a été un déclic. Et je me suis dit, effectivement, il a tellement raison. Profitons de nous, c'est-à-dire profitons des amis, profitons etc. pour faire des trucs un peu extravagants. Et comme il n'y a pas de hasard, eh bien, je sais pas, quelques semaines seulement après, j'ai un ami qui est un collectionneur. Un beau collectionneur de la région. Lui, pas très beau, mais c'est une belle collection, je veux dire.
C'est cadeau.
Oui, c'est, il l'a pris dans le champ. Et en fait, il a une collection magnifique. Et je vais le voir, je le rends visite assez régulièrement. Et il me dit, tiens, regarde, Igor, j'ai rentré une petite Juve à 4.
La Juve.
Et c'est tout mignon, hein, une Juve à 4. Mais bon, ça reste une Juve à 4. Donc, je n'allais pas m'extasier. Sauf que le perfide avait un tournant. C'est qu'il m'a dit... Donc, il me dit ça, je me revois encore. Et je passe devant la voiture, il me dit, t'as vu, j'ai rentré une Juve à 4, et moi, je continue, ah ouais, super, et puis je continue. Et pour m'arrêter, il dit, tiens, regarde. Là, je me retourne, et il sort un catalogue d'époque, et sur le catalogue d'époque, la Juve à 4, record à Montlhéry, 107-820 km/h de moyenne.
De moyenne.
Ouais, c'est ça, 107-820 sur je crois que c'était 50 heures. Et là, je dis, waouh, on va le faire.
Oh mon Dieu!
Et,
oh, le perfide!
Je prends mon téléphone. Alors, il savait très bien. Je prends mon téléphone, allô Thierry Dubois, on va. J'ai une connerie. Ah bon? D'accord. Tu veux que je te dise ce que c'est? Bah oui, je veux bien. Eh ben, on va faire un record à Montlhéry. C'est parfait. Crac, il me raccroche.
C'est Jean-Claude, ça, les copains, non ?
Jean-Claude, on va faire une connerie. Oui, très bien. Quand est-ce que tu veux que j'arrive ? Attends, je sais quand même. Et je lui explique le poteau rose. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'avais donc la voiture, j'avais les pilotes, il me manquait un peu le circuit. Donc j'appelle le circuit, pas de chance, ils n'étaient pas là. Et le lendemain, je reçois un joli message de retour au mien en disant évidemment, Igor, qu'on t'attend, évidemment, venez faire cette célébration du record. Et donc on a commencé comme ça. Et on a fait plein de trucs. Excusez-moi, c'est un chat qui est passé. Et en
Tiens,
fait.
on va équilibrer. Tu veux un autre animal? Voilà.
Et en fait, on a fait toutes ces petites aventures avec des voitures. Et l'idée, c'était des petites voitures pas chères qui avaient une histoire à raconter, en tout cas qui avaient déjà raconté une histoire, et notamment à Montlhéry.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, avec une Austin 7, on a roulé pendant 24 heures. On a fait ça avec une Aronde. Toutes ces voitures-là avaient fait à l'époque des records à Montlhéry. Et on a fait aussi un Tour de France avec une Peugeot 202. En 5 jours, on a fait 3 500 km. Donc la 202 est une voiture qui était de 1938 pour arriver à Montlhéry en star. Et donc, tout ça a donné vraiment, nous donnait envie, etc. Et c'est vrai que les voyages forment la jeunesse. Et je me
Déforme les
suis dit
voitures.
aussi, je me suis dit que ça serait marrant d'utiliser une de ces voitures pour pouvoir, à un
Accrocher la
moment,
jeunesse.
oui, servir à quelque chose. L'histoire de la transmission. On en revient au début de cet entretien où j'ai ce rédacteur en chef génial qui me dit, bah, vas-y, fonce. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi, la transmission.
Alors, comme je me mets dans le maître du temps, il nous reste un quart d'heure. Est-ce que si je te dis que ce qui t'a motivé, c'est de te rendre compte que l'avancée des âges et les artisans qui vieillissaient dans le monde de l'automobile sentaient qu'il n'y avait pas de relève, en tout cas pas en nombre suffisant. Et donc, si tu peux nous dire en 10 minutes cette façon dont tu t'es branché avec les apprentis d'Auteuil
Donc, le principe,
pour
les apprentis
réussir
d'Auteuil.
la transmission.
Absolument. Donc, les apprentis d'Auteuil qui prennent en charge des enfants qui, malheureusement, ont des difficultés familiales. Au départ, c'est les apprentis orphelins d'Auteuil, hein,
Oui, c'est
d'ailleurs.
ça, pardon.
Non, bah, aujourd'hui, ça s'appelle
Oui,
apprenti
oui.
d'Auteuil. Espèce de pudeur.
Mais dans l'ADN, c'était ça.
Exactement. Et à ce titre, donc, il n'y a pas de patrimoine familial et il n'y a surtout pas de passation justement entre les générations de la famille pour passer cette passion. Et effectivement, d'un autre côté, des artisans qui bah, arrivent en bout de carrière ont des savoir-faire parce que sur ces voitures-là, et notamment les voitures d'avant-guerre, il y a de la tôle, il y a du bois, il y a des toiles, il y a du cuir, il y a la mécanique, bien sûr. Donc, tout ça fait beaucoup de métiers et en plus, pour les métiers qui touchent quasiment à l'artisanat d'art. Et donc, du coup, quoi de mieux que d'emmener. Alors, au départ, on se dit, bah, tiens, ça pourrait être sympa que les établissements emmènent les enfants à des expositions, etc. Oui, mais on sait tous que dans une exposition, surtout quand on est un enfant, on n'a surtout pas le droit de passer la petite cordelette parce que sinon, on va se faire disputer. Et surtout, faut pas mettre les mains sur la carrosserie. On a tous entendu le truc, tu touches avec les yeux, absolument stupide et odieux. Et donc, moi, j'ai pris exactement le truc inverse,
Tiens donc,
c'est-à-dire,
c'est original.
voilà, je vais leur amener la voiture chez eux, et non seulement ils auront le droit de la regarder, de la toucher avec les doigts, et ils auront le droit de monter dedans, et ils auront le droit d'ouvrir le capot, et ils auront le droit de s'intéresser à ça, à moi ensuite de leur expliquer ce que c'est, pourquoi, comment, et surtout, avec ce parcours de 3 000 km que je fais avec cette voiture de 1929, de leur montrer que ce n'est pas seulement des pièces de musée, ce sont des autos qui sont fonctionnelles. Et
Et fonctionnel grâce au savoir-faire.
exactement. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que
Là, on
la
parle de quel
première.
modèle pour qu'on puisse
Voilà,
identifier?
absolument. Donc, c'est une Ford A de 1929. C'est une auto absolument géniale. Et
Très
qui
graphique.
marche très bien, en plus très graphique, c'est un peu la voiture de Mickey, c'est assez rigolo. Et les enfants, au départ, sont autour de la voiture. Quand je rentre dans les centres, et notamment les plus jeunes, sont autour de la voiture, c'est des élèves de troisième, et sont à quoi, 5, 6, 7 mètres de la voiture. Et il y a une espèce de pudeur, de retenue, je ne sais pas, qui est assez marrante. Et donc, je vois les encadrants qui sont un peu gênés par rapport à moi, qui vont, les enfants ont, et là, les enfants sont bon, ok, super, on n'ose pas approcher. Et j'ai dit, bah, écoutez, c'est simple. Le premier qui arrive à démarrer la voiture, je lui file 500 balles. Et là, j'ai 10 loupiots qui sont littéralement en train de dépiauter la voiture pour arriver à la faire démarrer. Et filles et garçons, et ça aussi c'est très important, puisqu'il n'y a pas seulement la voiture, et loin s'en faut, pas une histoire de garçon, que de garçons en tout cas. Et du coup, les enfants essaient de démarrer ce truc-là, n'y arrivent pas. Certains sont malins parce qu'ils se sont rendus compte que j'ai enlevé les clés. Parce que je me suis dit que le problème, c'est que si jamais il y en a un qui est plus malin que les autres et qui arrive à démarrer la voiture, les 500 balles, je ne les ai pas dans la poche, c'est un coup à ce qu'ils me courent après. Donc, je suis prudent. Et personne n'a réussi encore à démarrer la voiture. Mais enfin, c'est l'occasion pour eux de monter dans la voiture. Et on voit dans leur regard, alors il y en a certains qui bon, ils sont en perme, hein, du coup, ils n'ont pas le cours de maths pendant ce temps-là, c'est parfait, c'est chouette. Mais il y en a d'autres, on sent que, ben, ils regardent différemment. Et là, on se dit,
Quelque
si on le
chose
fait,
est en train de germer, quoi.
on ne sait jamais s'il y en avait au moins un. Qui chope le virus pour pouvoir ben, pratiquer ces métiers, qui sont plus des métiers où on gagne beaucoup d'argent, parce que les passionnés sont très demandeurs.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler, hein. Enfin, ça m'en fait penser aussi à une formule un peu biblique, hein. Semez, semez, vous ne savez pas ce qui sera récolté. Et là, non seulement on a tout à gagner à ce que ça germe, mais en plus, ils ne sont pas là pour rendre service. Il y a une attente, il y a des besoins, et donc toute une partie de ces jeunes, s'ils se forment et qu'ils choisissent ces filières, vont trouver des métiers passionnants à la clé.
Ah, ça, c'est une certitude.
Et ça,
Et
effectivement, faut le rappeler, c'est toute la beauté de cette démarche où... on parlait des moments agréables, des jouets, des bonnes ambiances entre amis, mais là, il y a une humanité certaine, et tu l'as constaté avec donc ces artisans de l'automobile qui se sont aussi posés la question en disant on n'est pas bon pour la relève.
c'est tout le problème. Alors, du coup, voilà, à mon humble niveau, j'essaye de promouvoir en fait le monde de l'automobile ancienne d'avant-guerre notamment, parce que pour le coup c'est celui qui me fait le plus rire, mais c'est quand même très important de se dire qu'il faut surtout pas que ces vieux messieurs qui poussent bah, qui vont bientôt pousser un déambulateur soient plus capables de conduire ces voitures, et le problème de ces voitures qui ne seront plus conduites ou qui n'intéresseront plus personne, bah, du coup seront mises en vente. Et tout ça, ça fera juste la joie des maisons de vente. Donc,
Si
c'est
c'est vendu,
bien
c'est
avant.
acheté.
Oui, le problème, c'est qu'on sait aussi malheureusement que ce patrimoine, qui est souvent un beau patrimoine français, va vite avoir vite fait de passer les frontières. Et ça aussi, c'est un vrai problème qui est important en termes de conservation. C'est-à-dire que le patrimoine automobile français, la France a été le plus grand pays. N'en déplaise aux Italiens de construction automobile, et c'est vrai que c'est quand même navrant de se dire que toutes ces autos-là, à un moment, sont susceptibles de quitter le territoire, et surtout qu'on les oublie au fond des garages ou des granges.
Oui, ça, évidemment. Et si on a envie de parler de l'édition donc d'avril prochain, qui est pour toi une
Exactement. Donc l'idée, c'est la deux. Moi, donc j'ai fait une première
deuxième
boucle.
opus.
Voilà, première boucle de 3 000 km sur l'ouest de la France, et deuxième opus, donc 3 000 km sur l'est de la France. Donc on va faire une boucle qui sera qui
C'est ton petit
partira de...
tour auto à toi.
Oui, c'est ça. Qui partira d'Aix-en-Provence. On va remonter Tournus, Lyon, et puis ensuite on va mettre le cap sur Paris, mais en passant par Mulhouse quand même.
Le choix à part des adresses mythiques, mais tu vises aussi les établissements.
Alors, je vise les établissements des apprentis d'Auteuil,
Oui.
bien sûr, puisque c'est le sujet, c'est ça, hein, c'est d'amener la voiture chez eux. Et puis aussi, le journaliste est là quand même, hein, j'ai toujours. Voilà. Et donc, le fait d'aller voir des artisans qui eux, officient, c'est aussi pour moi l'occasion, avec justement les réseaux sociaux, les tournages vidéo, etc., à la fois de montrer la voiture aux enfants, mais aussi à ceux qui sont pas dans le voyage, de montrer par le biais de reportages les artisans qui seront les premiers à dire, venez les gars, j'ai besoin d'aide parce que sinon je vais être obligé de fermer la boutique. C'est vraiment
Alors,
quelque chose d'important.
est-ce que tu m'autorises à dire, puisqu'on est dans l'univers de l'artisanat, je formulerai volontiers ça comme ça, en disant que c'est un peu ton chef-d'œuvre à toi, parce que nourri du journalisme, de cette passion, de t'être rendu compte qu'on pouvait rester dans l'absence de sérieux, mais en faisant la passion sérieusement, tu t'es rendu compte de l'importance aussi de Facebook et du tournant que ça a pris pour la visibilité des aventures et des rencontres entre passionnés. Et toutes ces vies cumulées font qu'aujourd'hui, en pouvant être sur la route, en allant chercher les artisans, en les branchant avec les jeunes, en faisant une communication efficace, en restant journaliste, c'est vraiment l'alchimie et le cercle vertueux de ce que tu as récolté jusqu'à maintenant.
On peut dire ça effectivement comme ça. Alors, c'est vrai que c'est l'occasion pour moi de dire aussi que moi, j'ai besoin d'aide pour le faire. J'ai besoin d'aide parce que mine de rien, c'est les autos qui consomment un peu.
Qui peuvent ne pas répondre au doigt et à l'œil comme on le demande.
Eux aussi, c'est ce qui m'est arrivé, casser un moteur.
Ah.
Donc on le répare, puisqu'on s'est engagé à faire le truc, donc il faut faire réparer le moteur. Et c'est vrai que si jamais il y a des auditeurs qui sont... des auditeurs et notamment des entreprises qui ont envie de prêcher la bonne parole aussi dans leur sens. C'est déjà le cas de nos amis des contrôles techniques Autosur qui ont bien compris eux aussi de leur côté qu'il faut aller chercher des jeunes et donc qui ont tout de suite répondu à notre tour en disant on sera là avec toi et on va t'accompagner pour ce projet. On a aussi la Fédération française des véhicules d'époque qui est partenaire de cet événement, parce que eux aussi travaillent beaucoup justement sur la succession, sur la transmission, sur la promotion des savoirs.
Mais là, tu as cité deux partenaires qui sont cohérents d'un point de vue du monde automobile et transmission du savoir, mais tu es ouvert effectivement à un acteur qui a compris l'humanité qui est derrière cette aventure et qui pourrait se l'approprier en disant voilà, moi je vous aide.
Absolument. Okay. On a beaucoup d'entreprises notamment qui sont partenaires de grands projets, notamment sur le Vendée Globe, pour parler des marins, qui ont cette faculté, alors pas en marque transparente, mais presque, d'être présents sur des gros projets qui coûtent des millions d'euros. Là, on est sur des budgets qui sont assez dérisoires, donc c'est vrai que s'il y a des entreprises qui se disent « c'est pas idiot », elles seront les bienvenues. Et puis, j'espère que tu mettras un petit bandeau avec notre adresse pour qu'elles puissent prendre contact avec nous.
Oui, de manière à ce que ça se fasse assez simplement et que nos auditeurs puissent retrouver toutes ces informations. Tu parles d'entreprise. Est-ce qu'il peut... Il y a aussi un réceptacle financier qui permet à des particuliers de donner ou pas ?
Je ne l'ai pas fait.
Est-ce que si on donne aux apprentis d'Auteuil, pardon, je te coupe, mais si on donne aux apprentis d'Auteuil en disant que c'est pour ce projet ?
Alors non, parce qu'en fait, il n'est pas question que les apprentis d'Auteuil financent quoi que ce soit de ce projet. Hein. Au contraire, on a un petit QR code sur les fesses de la voiture qui permet de donner des sous aux apprentis d'Auteuil. Il n'est pas question. Voilà. Là-dessus, on n'a pas fait de cagnotte.
Non, pas une cagnotte pour les frais de fonctionnement, mais au moins, ça augmente la visibilité. Les apprentis peuvent dire, nous, on a reçu 3000 euros grâce à toi.
Absolument, ça c'est effectivement effectif. Il y a un QR code sur les fesses de la voiture qui permet de pouvoir justement faire des dons pour les apprentis d'Auteuil. C'est ça qui est sympa.
Donc plutôt les particuliers plutôt en direct pour les apprentis d'Auteuil et les entreprises plutôt pour l'organisation pour assurer une logistique efficace.
Oui, parce qu'en fait, une entreprise, le but de notre jeu à nous, c'est pas simplement de mettre un autocollant sur la voiture, ce qui n'a pas de sens. D'ailleurs, mettre des autocollants sur cette voiture, c'est un peu dommage. Heureusement, sa peinture mérite une refonte totale. Donc, c'est pour ça qu'on s'autorise juste sur ce voyage à mettre des autocollants sur cette voiture. Et puis ensuite, à l'issue de l'aventure, on les enlèvera, on refera une peinture correcte pour rendre à cette dame une robe à peu près propre. Et en fait, on est journaliste. Alors quand je dis on, c'est parce que j'ai une équipe qui m'aide.
Dans le du monde.
Voilà. Et donc on a tout un panel de capacités de communication qui peuvent vraiment s'adapter à n'importe quelle entreprise qui voudrait être partenaire et qui voudrait jouer avec nous dans ce joli projet à destination des enfants. Et encore une fois, je suis persuadé que plus on aura l'occasion de présenter cette voiture à de nombreux enfants, et plus peut-être qu'au milieu de ces enfants, il y en a quelques-uns qui vont se dire « pourquoi pas ?»
Ben, écoute, c'est voilà, ce pourquoi pas. On avait commencé avec un Kezako, on a répondu à la question. Le pourquoi pas, on a également la réponse. Et les motivations vont se concrétiser, j'espère. Et peut-être qu'il y a une signature aussi de l'ami Igor que tu trouves. Si tu es souple, tu peux peut-être nous montrer une de tes signatures qu'on retrouve dans l'univers Icar. Vas-y, vas-y. Non, 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 plutôt en bas de toi. Lève la jambe, lève la jambe. Tant pis pour les copains, pour ta chaussette rouge.
C'est ça, en fait, ce que vous sachiez, c'est que justement, puisqu'on se prend très au sérieux, le lieutenant de la route n'a pas de costume, de blazer, de logo avec des fils d'or. En fait, le comment dirais-je, costume réglementaire, c'est la fameuse chaussette rouge. Et là, tu me fais faire des choses incroyables. Voilà, bon. C'est... Alors, il paraît que certains hommes politiques mettent des chaussettes rouges, des cardinaux aussi, mais vous pouvez aussi vous retrouver nez à nez avec des membres du Yacht Club des Avions de la Route. Il n'y a pas de signe distinctif à part effectivement ces chaussettes.
Donc on peut être déclaré nulle part et affilié à personne, penser aux autres et se lancer dans des aventures permettant la transmission et soutenant les artisans de l'automobile. Igor Biatry, merci de tout cœur d'avoir pris le temps dans un agenda un peu bousculé pour se poser et être de l'autre côté du micro, parce que finalement, c'est pas si fréquent.
Bien, en tout cas, un grand merci à toi et puis surtout bravo, parce que tu t'en sors remarquablement et j'ai vraiment apprécié cet entretien. On n'a pas vu le temps passer.
Bon, écoute, merci, sans parler de la pression que ça représentait face au roi du micro. Donc, merci de tout cœur, merci pour les enfants et les artisans de l'automobile, puisque c'était évidemment également le petit clin d'œil cohérent pour nous. À très bientôt avec joie, bonne route avec cette Ford.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît Duchâtelet, émission préenregistrée le 31 janvier 2026 et diffusée pour la première fois vendredi 6 février 2026 de 19h30 à 21h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.